Merci, bonsoir. Alors, bonsoir Colette Feluz, j'ai le plaisir de vous accueillir à Montpellier et dans cette belle médiathèque, cet auditorium un peu impressionnant. Et ça n'est pas la première fois d'ailleurs que le public montpelliérain vous rencontre, parce que vous êtes venu déjà à différentes reprises présenter certains de vos romans. Vous êtes donc écrivain, romancière, vous étiez venu, je crois, présenter...
Aujourd'hui,
et puis Avenue de France. Et aujourd'hui, et vous êtes aussi productrice à France Culture depuis de nombreuses années. Et là, vous animez Carnet Nomade, une émission hebdomadaire. Et enfin, vous êtes éditeur, éditrice au Mercure de France. Donc, une vie bien remplie autour d'activités, ma foi, littéraires, autour du livre qui s'anime ainsi. Et dans cet ouvrage, alors pour Dalida, c'est un livre un petit peu particulier, enfin, dans la mesure où il s'intitule, ça va être d'ailleurs ma première question, il s'intitule Romance. Alors, pourquoi ce sous-titre? Pourquoi ce titre pour ce roman?
C'est une romance, en fait. Au départ, on avait décidé d'appeler ça récit, mais je trouvais que la qualification de récit n'était pas assez précise. Et je me suis dit, c'est entre un roman et une chanson. Et tout à coup m'est apparu ce terme romance. Et j'ai cherché après dans le dictionnaire et j'ai vu que c'était une romance. C'est comme une chanson qu'on écrit pour quelqu'un, en fait. C'est dans l'étymologie, enfin dans la vraie définition, c'est une composition sentimentale pour quelqu'un de populaire ou un héros. Et c'était le terme au 18e et au 19e siècle. Mais pour moi, la romance, c'était une chanson. Une chanson avec ce terme romantique aussi qu'il y a à l'intérieur. Et au fond, je me suis dit que c'était comme un rendez-vous que j'avais fixé à Dalida. Et à ce rendez-vous, je lui apportais ma chanson, une chanson pour elle. Et en fait... Donc ce n'est ni un roman, ni un récit, mais une sorte de chant, d'offrande, que j'avais envie de lui apporter personnellement, voilà, à elle.
Très bien, donc merci. Donc romance, effectivement, pour Dalida. Et alors ce livre, il est effectivement pour Dalida, mais il est aussi, on pourrait le dire, pour votre mère aussi, parce que en fait, Dalida, c'est avant d'être la star, ça a été la chanteuse que vous avez entendue quasiment toute votre vie, parce que votre mère écoutait beaucoup Dalida, qu'elle l'aimait beaucoup, et depuis la petite enfance, je veux dire 5 ans, 6 ans, vous vous souvenez d'avoir entendu ses chansons. Donc ce livre, il est à la fois pour Dalida, on peut dire aussi quand même pour votre mère, parce que dans le fond c'est le livre qu'elle aurait voulu écrire, et que vous écrivez à sa place. Alors là, parlez-nous un petit peu de cela.
Oui, parce qu'en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais quand j'ai accepté une commande de Teresa Crémisi chez Flammarion, qui m'avait dit « J'ai appris que tu aimais Dalida », elle m'avait entendu dire comme ça que j'aimais Dalida et que j'avais envie d'écrire sur elle, mais c'était comme une boutade, en fait, que j'avais lancée comme ça. Elle avait entendu cette phrase et elle m'a proposé donc d'écrire sur elle. J'ai dit oui, j'ai accepté tout de suite, mais je n'avais pas compris à quel point c'était important pour moi. Je croyais que j'allais me limiter à raconter mon lien à Dalida, ma passion, en fait, pour sa voix, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour sa vie aussi, très très très
oui,
touchante, en fait.
On va en parler.
Donc j'ai accepté. Je pensais me lancer dans une biographie un peu personnelle, mais pas trop.
Mais elle l'est terriblement, si je puis dire, parce qu'en fait, c'est pour votre mère. Mais quelque part, vous êtes aussi dans l'identification de votre mère.
Oui.
Donc, ce récit, il est, si je puis dire, enfin, cette romance, elle est à trois niveaux. Elle s'adresse à la fois comme à un texte de gratitude pour Dalida, mais c'est en même temps l'image de la mère. Et c'est vous, enfant, totalement, enfin, identifié à cette mère. Donc, il y a vraiment... Est-ce que ça vous a un peu transformé, si je puis dire, cette écriture, quelque part?
Oui, tout à fait, parce qu'en écrivant, en commençant à écrire ce que je pensais être une biographie un peu personnelle, mais pas trop, ça m'est apparu tout à coup, tout s'est éclairé, et j'ai compris pourquoi j'aimais Dalida, parce qu'il y avait derrière la présence de ma mère, donc dans cette maison en Tunisie, et qui écoutait Dalida. Donc j'avais, je sais pas quand elle a ses premières chansons, moi je suis née en 50, donc c'était en 56, 57, 58, j'avais 6, 7 ans, 8 ans, et la voix de Dalida était vraiment, faisait partie de notre maison. Ma mère l'écoutait en permanence, en boucle, et du coup j'ai compris qu'il fallait que je me glisse dans les yeux de ma mère et dans la présence de ma mère écoutant Dalida, et que je retrouve à la fois ce que j'avais compris de ma mère, de la femme qu'elle était dans cette maison en Tunisie, dans un pays arabe, avec cette envie aussi de France, de cinéma américain, de romans, de tous les romans. Elle avait des rêves comme ça extraordinaires, et qui ressemblaient finalement à ceux de Dalida, qui était, elle, en Égypte, avec ses mêmes rêves, en fait.
Oui, il y a des parallèles, enfin, il y a évidemment des parallèles entre...
Donc j'ai tissé un peu des liens entre Dalida et moi, entre ma mère et Dalida, entre ma mère et moi, et finalement, j'ai composé une espèce de dessin, ou de mosaïque, ou de puzzle, où on retrouve collectivement, finalement, le
tout
sens.
Ça, voilà, absolument, tout ça. Absolument, tout à fait. Alors, c'est plus, je dirais, effectivement, une mosaïque, parce que ça n'est pas chronologique. De la même manière que, je veux dire, vous abordez à la fois le passé, votre mère et Dalida, vous et votre mère et Dalida, de la même manière, le temps, le passé et le présent sont continuellement imbriqués, et il y a à la fois votre discours de narratrice, et puis tout d'un coup vous faites intervenir votre mère comme si elle était là au présent, et dans un présent relativement proche, ou au contraire votre mère dans un passé beaucoup plus lointain, qui est celui de votre enfance, et tout d'un coup Dalida avec sa carrière, etc. Donc ce sont des allers-retours dans le temps, à travers les lieux, qui sont des lieux à la fois différents mais proches, parce que vous le dites, vous le soulignez, sont dans le fond des pays méditerranéens, qui sont marqués par une atmosphère, une culture, une langue, une musique, mais des langues, justement, avec, vous dites, ces langues que on parle plusieurs langues, mais on les parle mal, finalement, parce que on sait un bout d'italien, un bout de maltais, un petit bout de l'espagnol, et bien sûr le français, l'arabe. Donc, à travers ces analogies-là, eh bien, c'est là que prend corps non seulement le récit ou la romance, mais que prend corps, je dirais, tout votre univers littéraire. Parce que c'est là que ça rejoint votre œuvre, parce que vous dites que c'est un ouvrage de commande, mais
oui,
en définitive,
en fait, il ressemble aux autres.
Voilà, on retrouve votre univers littéraire où vous êtes justement dans cette recherche qui est à travers différents lieux que vous faites tout d'un coup coexister, se répondre, cohabiter presque d'une certaine manière, et à travers le temps.
Oui, en fait, vous avez raison, parce que je m'en suis pas non plus aperçue tout de suite, mais ce que j'aime dans un livre, c'est prendre des motifs, comme j'ai pris dans Avenue de France l'architecture de la ville de Tunis, ou dans Aujourd'hui la mesure des jours qui me conduisent un peu partout dans le temps, mais de façon égale, c'est-à-dire que le passé et le présent sont au même niveau, et la littérature peut faire ça, on peut, et la mémoire d'ailleurs, nous tous. Quand on pense, on n'a pas une hiérarchie de temps. On a des images qui sont à la fois très anciennes et puis qui se projettent peut-être dans la semaine prochaine, le mois prochain. Là. Enfin, il n'y a aucune chronologie dans la mémoire. Et la littérature a aussi ce pouvoir de restituer cette beauté du temps présent toujours.
Oui, mais cette démarche, si vous voulez, enfin, si vous me permettez, je trouve qu'elle existe chez certains auteurs de manière contemporaine. Auparavant, on n'avait pas ça dans la littérature.
Oui, c'est vrai, c'est
la
vrai.
Littérature avait un côté narratif, si je puis dire, ou au contraire le nouveau roman qui s'opposait à toute narration. Mais là, on a depuis quelques décennies, et chez certains auteurs, pas chez tous, justement, je pense à Geneviève Brissac, qui écrit un peu comme à Modiano d'une autre manière.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, il y a ce travail de la mémoire à travers le temps, mais à travers aussi un système de pure association, si je puis dire, de pensée qui se met en place, à qui on laisse libre cours et qui permet une juxtaposition, justement.
Oui, et là, du coup, c'était la voix de Dalida même qui m'a servi de boussole, on peut dire, parce que les chansons, d'abord, les chansons populaires, hein, sont des repères dans le temps extraordinaire. On peut se souvenir d'une chanson et si on s'approche de cette chanson très près de la voix, on retrouve exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, quand vous l'avez entendu la première fois, dans un café, sur une plage, par la fenêtre d'un immeuble, et vous retrouvez tout. Donc j'ai suivi, vraiment, je me suis glissée dans la voix de Dalida le plus près possible. D'abord, je l'ai écouté beaucoup, beaucoup, sans arrêt, en écrivant ce livre, et j'arrivais à entrer dans sa voix, et cette voix me guidait. Alors parfois j'allais avec elle en Égypte, parfois j'allais avec elle quand elle découvrait Paris, parfois je la retrouvais aussi par ses gestes, par des vidéos.
Mais oui, alors on est impressionnant. Voilà, j'allais vous demander comment avez-vous travaillé pour ce texte, parce que on a le sentiment quand même, il y a à la fois cette évocation qui a l'air flou, qui est faussement flou, si je puis dire, et qui circule de lieux différents. Mais en même temps, il y a une précision, j'allais dire, discographique, filmographique, culturelle, enfin, qui est extrêmement forte. Alors, vous avez travaillé comment ?
Oui, j'ai travaillé comme dans Avenue de France, d'ailleurs, où ça a l'air de circuler comme ça sur un siècle dans la ville de Tunis, mais avec des archives très précises. J'avais pris aussi des archives très précises. Et là, tout est vrai dans ce livre, c'est-à-dire que je n'ai pas inventé un détail. J'ai pris tous les détails que j'avais, mais je voulais pas non plus enquêter auprès de gens qui l'avaient connu. Je voulais faire confiance que mon intuition et puis ma relation à elle, en fait. C'était comme si elle était vivante. Et je la retrouvais, donc je la faisais revivre à travers sa voix, à travers ces moments où elle entrait sur scène. Donc j'ai tout écouté.
Ses costumes.
Mais c'était obsessionnel, c'est-à-dire.
Oui, jusqu'à la robe de Hazaro, par exemple, on a des détails.
Alors toutes les robes, la couleur de ses robes, ses jets, ses oeufs. Et plus je m'approchais de tous ces détails, donc après j'ai éparpillé, que j'ai mis comme dans un kaléidoscope presque, mais que ça tournait autour. Et donc je me suis dit, au fond, je veux avoir un lien vrai avec elle, voilà. Et donc je voulais pas être influencée par tout le mythe qui tourne autour d'elle, parce que je crois même que c'est ça qui l'a un peu tuée. Je crois que elle a été écrasée par tout ce qu'on a dit d'elle, la femme malheureuse avec ses maris qui se suicident, la femme qui a un strabisme, qui est voilà. Donc elle a adhéré aussi à ça, parce qu'elle conduisait aussi ce mythe, elle l'entretenait, mais en même temps. J'avais envie de la dépouiller de tout ça et de la retrouver. Ce que j'ai retrouvé, c'est la gravité de sa voix, la profondeur de sa voix, ses entretiens aussi quand elle parlait à la radio, les archives de l'INA où on l'entend, et aussi tous ses gestes. Et j'avais l'impression qu'elle était avec ma mère. D'un côté, j'avais ma mère qui me disait, tu as raison, écris, continue, c'est le livre que j'écris moi et que tu écris à ma place. Et de l'autre, Dalida qui me disait, toi, tu me comprends. Mais enfin, bon, c'est moi qui crois ça. Ça se trouve, je me suis complètement trompée et c'est pas du tout ça. Mais j'avais l'impression, d'ailleurs, au départ, c'était difficile parce que, vous savez, on disait toujours, tu es folle, tu écris sur Dalida, elle porte malheur, tu sais pas.
Ah bon,
tu vas avoir plein d'accidents, de trucs. Et du coup, ça me faisait un peu peur. Je me disais, ah bon, peut-être qu'il faut pas. J'ai failli être écrasée par un train. Quand je suis arrivée une fois en Tunisie, je voulais écrire. Je me suis dit, voilà, là, je vais rester un mois. Le premier jour, boum, un train qui arrive et qui allait m'écraser. Je me suis dit, ça doit être Dalida. J'ai pas écrit, j'ai laissé de côté cet été-là. J'ai pas travaillé sur elle. Et puis, peu à peu, je me suis dit, c'est tellement idiot tout ça. Moi qui suis pas superstitieuse, je vais pas rentrer là-dedans. Oui. Et donc, je me suis approchée et à un moment, Et je crois que c'est la présence aussi de cette idée que c'était ma mère, au fond, qui me poussait à écrire ce livre. Oui. Donc la protection aussi de ma mère contre toutes les choses négatives. Mmh. Et du coup, là, elle est arrivée comme une danseuse, Dalida, sur la page. Elle est arrivée, elle est entrée en scène et tout s'est mis en place. Et donc, je n'ai rien... J'ai essayé de ramasser tout ce que j'avais vu d'elle, tout ce que j'avais su d'elle. Mais d'une autre façon, plus ouais. légère en fait. Ouais. Voilà, plus légère, mais très précise.
Très, très précise, tout à fait, en effet, tout à fait précise. Et il y a une justesse aussi des détails à d'autres moments, parce que vous racontez par exemple quand Dalida retourne dans son.
Dans sa maison.
Dans sa maison. Et vous signalez bon, plusieurs choses, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, mais vous dites par exemple, elle retrouve la mesure exacte de chaque marche. C'est absolument.
On la voit plein d'exemples. C'est vrai, qu'on la voit dans une vidéo comme ça pour une télé, retrouver sa maison, l'a emmenée et tout. Et à un moment, on la voit lentement monter l'escalier de l'immeuble. Alors moi, je trouvais que c'était exactement l'immeuble de ma maison aussi. Donc j'arrivais à ressentir ce qu'elle ressentait. Et elle monte l'escalier et tout à coup, elle met la main devant son visage comme ça et elle pleure. Elle s'effondre et on sent, parce qu'elle n'est pas revenue depuis très longtemps, elle a eu sa vie de star ailleurs et elle revient dans ce petit immeuble poussiéreux, un peu délabré comme ça, et elle marche lentement, on a l'impression qu'elle marche dans sa mémoire, dans son passé, dans son enfance douloureuse aussi, et du coup elle craque. Et donc après il fallait mettre en récit ça de façon pudique aussi parce que... J'avais envie de retrouver ce que j'ai ressenti aussi en la regardant dans cette vidéo.
Sur le plan, je suis désolée, je vais peut-être insister encore sur le plan donc du travail. Vous n'êtes jamais allée au Caire ou est-ce que vous êtes allée dans
Si,
parlez du Caire très clairement.
Ah oui, je suis allée sur ces traces.
Vous êtes allée sur ces traces,
hein.
Là, quand même. Qu'est-ce que vous n'êtes pas allée à San Remo, par contre, ni en Calabre.
Non, voilà.
Vous êtes allée sur les traces, donc vous en parlez réellement.
Oui,
donc,
je sais que Rosetta Lloyd m'avait dit, il faut que tu ailles à San Remo parce que tu vas tout comprendre là-bas, mais je suis pas allée finalement.
Vous n'êtes pas allée. Et vous avez pour tous ces références musicales. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez absolument pioché dans ce qu'avait Lina,
tous les CD de 45 tours, et puis j'ai cette mémoire. J'étais vraiment très très forte en Dalida.
Oui. Hein. Ah oui, d'accord.
Je connaissais toutes les paroles petites.
Et il nous en reste quelques-unes, c'est vrai que...
Je me souviens qu'à 11 ans aussi, il y avait une fête chez des copines à la plage en Tunisie. Et moi, je faisais de la danse à ce moment-là. J'avais mis ma robe de gitane du ballet espagnol, une robe de gitane. J'avais pris un tambourin et j'étais allée chanter les gitans. Et j'avais répété chez moi toute seule l'après-midi pendant des heures et tout. Et je mettais beaucoup de mystères. D'où viens-tu, gitan et tout. Je faisais la voix et j'adorais déjà. Et imiter sa voix. Mmh. Et ce qui est extraordinaire chez Dalida, c'est qu'on a toujours envie de l'imiter. Et que dans toutes les générations, elle donne envie de l'imiter. Je ne sais pas pourquoi.
Elle a quelque chose qui est extraordinaire dans sa voix
et on se dit, on va faire comme elle.
Alors peut-être qu'on peut un peu revenir quand même au récit lui-même. C'est-à-dire que Dalida, ce qui vous a touché d'abord en elle, c'est le lien que vous aviez en écoutant ces chansons et surtout le lien que votre mère avait tissé à son insu, si je puis dire, à son insu, à travers toutes ces chansons. Alors votre mère est malheureusement malade à certains moments, on dirait cyclothymique, maniaco-dépressive, enfin des tendances maniaco-dépressives. Et vous êtes une enfant et quand elle sombre dans ces périodes comme ça de maladie où elle est en dehors de tout, si je puis dire, quand elle en ressort, c'est encore avec Dalida. Et il y a une espèce de joie comme ça qui vous accompagne toutes les deux, et vous vous mettez sur le balcon à chanter comme Eprima, etc. Et finalement, cette figure de la mère et cette figure douloureuse aussi de Dalida à certains moments.
Mais oui, c'est
elle
ça.
Elle s'identifie, elle se retrouve, quoi.
Oui, parce que je savais pas. Enfin, on le sait un peu, mais je savais pas à quel point Dalida elle-même était cyclothymique, c'est-à-dire qu'on retient que les moments où elle était sur scène
c'est
et tout.
Star, ouais.
Mais voilà, mais quand elle était souvent, quand on reviendra peut-être sur la mort de Luigi Tenco et tout
oui,
ça, mais
oui,
elle a passé après 3 ans. Enfermée chez elle dans la journée et le soir, elle était obligée d'aller chanter, de se mettre des robes extraordinaires et de chanter et d'être bien parce qu'elle était bien avec son public. Mais le lendemain, elle avait une grande souffrance et tout. Et ça, moi, j'ai connu toute petite ça chez ma mère. Et j'arrivais pas à comprendre comment cette mère qui était joyeuse, qui faisait des gâteaux, qui était drôle, qui était marrante, qui justement chantait Dalida ensemble toute la journée, comment
tout d'un coup le piano,
voilà,
enfin,
le piano,
elle était
c'était une artiste. Ma mère était vraiment une artiste, mais qui n'a pas eu de carrière d'artiste, mais elle était vraiment merveilleuse pour ça. Elle m'a tout appris. Elle m'a donné le goût de la littérature, de la musique, du cinéma, de Dalida. Mais je comprenais pas quand j'étais petite comment on pouvait à la fois être si joyeuse et si rigolote, si drôle, si gaie, si musicienne, et tout à coup en un jour c'était fini. La maison devenait un cimetière, c'est-à-dire qu'elle restait dans sa chambre, il fallait parler doucement, maman est malade, donc plus de musique, plus rien. Moi en cachette, j'allais discrètement à l'école où justement c'était mon bonheur parce que je pouvais être libre, étudier, et il y avait les copines et que c'était magnifique cette liberté. Donc j'ai pris goût de l'étude, de l'école, aussi parce qu'à la maison c'était
un univers
qui
s'ouvrait, libéré.
Et tout à coup dans la maison il y avait comme des rythmes. L'année était rythmée par les moments tristes où ma mère était au lit et les moments où elle se réveillait comme dans un conte, comme la Belle au bois dormant. Et tout à coup, qu'est-ce que c'était? La cloche, c'était Dalida. J'entendais, je rentrais de l'école, tiens, comme est prima. Je dis, ça y est, maman est guérie. Alors je disais guérie, mais en fait, c'était pas vrai. C'était une phase de sa maladie. Mais nous, on disait, ça y est, c'est guérie. Et donc, pour moi, Dalida, et je l'ai compris en écrivant, tout ce que je vous dis là, je n'étais pas consciente vraiment, mais c'est par la mémoire que j'ai retrouvé le sens de ces moments. Et du coup, pour moi, Dalida, c'était le médicament de ma mère, et pas seulement de ma mère. Une chanson populaire, c'est un médicament aussi. Enfin, c'est un accompagnement, c'est un trésor, c'est quelque chose qui vous réconforte, vous savez même pas pourquoi. Ce sont des paroles très banales, très, très ordinaires, et elles vous portent, elles entrent en vous, vous êtes joyeux, vous avez envie de rire, vous avez confiance en l'avenir, même si 5 minutes après, c'est
fini.
Oui,
c'est passé.
Donc c'était toutes ces choses qui me sont revenues. Et donc c'était aussi un hommage à la chanson populaire. Voilà, à partir de cette histoire personnelle, je me suis dit au fond que c'était aussi pour tout le monde la même chose. Donc j'avais envie de comprendre le sens, le rôle d'une chanson dans une famille, dans un pays, dans une génération, dans toute la Méditerranée, voyez, dans une histoire politique aussi, et Dalida avait ce rôle.
Qui était assez semblable,
tout
à fait. Vous parlez d'une vie chansonnette, justement.
Oui.
C'est joli comme image. C'est effectivement, je pense qu'on a tous comme ça des chansons qui nous...
Oui.
Qui nous trottent tout au long d'une vie, quoi. C'est très, très marquant. Et pour vous, petite fille, alors, à la fois, vous ne formuliez sûrement pas les choses aussi clairement, comme vous le dites, mais en même temps, vous dites dans votre livre quand même que une petite fille, ça comprend, qu'une enfant, ça comprend beaucoup de choses, et que vous entendiez, vous compreniez effectivement tout cela, que vous étiez aussi en mesure d'entendre tout ce que votre mère pouvait vous dire quand elle allait très bien, sur le plaisir, sur un certain nombre de choses, avec une liberté incroyable, et que dans le fond, vous aviez eu cet éveil, et en même temps, cette souffrance quand même.
Oui, mais je crois que Dalida avait aussi cette naïveté. Ma mère était un peu naïve aussi, c'est-à-dire qu'elle pouvait dire les choses les plus crues, les plus vraies, mais de façon innocente et qui me choquait parfois. Elle parlait de l'amour, elle était amoureuse du voisin. Elle me disait, t'as vu comme il est beau? Et moi, j'étais un peu gênée, vous voyez, c'était un peu bizarre. Elle me disait, mais oui. Enfin bon, il y a eu plein d'histoires, mais ma mère, c'est encore une autre chose. Mais déjà avec ce lien avec Dalida, c'est Dalida a aussi cette naïveté. Et c'est ça qui l'a sauvée dans sa vie. Et je crois que si elle est morte après, c'est presque une chute de sa naïveté. C'est tout à coup, elle s'est aperçue, elle a été extrêmement lucide. Et elle s'est aperçue qu'au fond, elle n'avait plus cette naïveté, cette innocence pour la protéger. Elle a vu crûment les choses. Et je crois que ma mère avait aussi ça dans ces moments où elle était découragée, disons. C'est qu'elle avait une lucidité aussi sur ce qu'elle n'avait pas vécu. C'est-à-dire, elle n'avait pas vécu un grand amour avec mon père. Elle l'attendait toujours. C'était des femmes, et Dalida, je crois qu'elle était aussi comme ça, qui attendait toujours l'impossible, la chose, le prince charmant.
Le romantisme, quoi, c'est ça.
Elle est toujours arrivée. Donc, elle s'entourait d'hommes un peu bizarres, des gens un peu cassés, un peu fêlés. Elle est protégée, mais il lui donnait pas grand-chose, en fait.
Non.
C'est elle qui donnait beaucoup. On l'appelait maman, elle aussi, parce qu'elle était très généreuse, elle s'occupait de tout le monde. C'est elle qui gagnait l'argent, elle s'entourait de gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais qui comptaient sur elle. Donc c'est une héroïne. C'est une héroïne.
Oui, c'est vrai, quelque part.
Qui ne s'est pas aperçue qu'elle a continué parce qu'il fallait chanter, parce qu'il fallait bouger, qu'il fallait s'adapter aux modes, il fallait faire. Voilà, elle avait du travail, elle était très travailleuse, elle répétait, elle s'acharnait, elle prenait des cours de danse, elle n'arrêtait pas.
Elle a tout fait, vous dites, effectivement,
voilà,
depuis
elle
le.
Elle a tout fait, elle était d'accord, on change de mode.
Jusqu'au reggae, quoi. Oui,
voilà,
c'est ça, elle partait.
D'accord, après. J'y vais. Et tout à coup, elle s'est aperçue, donc. Je pense vers l'âge de 50 ans qu'au fond, sa vie chansonnette, qu'elle avait donné sa vie pour des chansons, mais que ses rêves étaient bien plus grands. Et quand elle a quitté le Caire, d'ailleurs, au départ, c'est pas seulement de la chanson qu'elle voulait faire.
Elle voulait être comédienne aussi,
voilà,
c'est ça.
Pas seulement une petite comédienne. Elle voulait être Rita Hayworth, elle voulait être une grande actrice américaine, presque, mais en France. Donc elle avait des rêves immenses. Et ses rêves immenses ont eu la vertu de l'aider à faire cette carrière quand même, qui est très belle, mais ça ne suffisait pas, ça ne lui suffisait pas. Et donc il y avait comme un retour, même après, quand à la fin de sa vie, elle a accepté ce film, vous savez,
oui,
de Youssef Chahine. Donc là, elle s'est dit...
Il l'a ramené au Caire, oui.
Elle s'est dit, je vais enfin être actrice, la chanson c'est bien, mais voilà, maintenant peut-être qu'il est temps d'être actrice, et c'était très douloureux de ce dernier rôle, parce qu'elle avait un rôle de grand-mère avec
elle s'était vieillie,
elle était très très belle d'ailleurs,
elle a des photos très belles dans
ce film, mais elle a fait comme une boucle de sa vie. Elle retournait en Égypte avec, vous savez, Youssef Chahine lui avait mis un voile pour cacher ses cheveux, elle avait les robes longues, une grand-mère qui sauvait son petit-fils du choléra. Elle a appris à parler en arabe. Donc pour moi, je vois ça comme un cercle, en fait, sa vie comme un cercle, et que c'était presque normal qu'elle s'arrête là, parce que c'était pas non plus l'image qu'elle admettait d'elle, même si elle s'est donnée à fond pour jouer bien ce rôle. Et elle retournait au Caire et tout, et c'est quelques mois après, en fait, qu'elle s'est dit au fond, peut-être que je ne serai pas une grande actrice, même si elle était très très bonne actrice dans ce film.
Dans ce film, oui, tout à fait. Ouais.
Mais c'est pas un film qui avait très bien marché. On n'a pas dit Dalida est exceptionnelle. Mmh. C'est pas Maria Cazares, vous voyez. C'était donc et elle a compris ça. Et elle a préféré peut-être arrêter avant de vieillir, ou je sais pas.
Peut-être. Mais c'est sans doute aussi sa vie sentimentale qu'il a.
Oui.
Parce que vous nous faites découvrir justement ce personnage terriblement attachant, finalement, de Dalida. Bon. Et en même temps, qui n'est peut-être pas le parcours exclusif de Dalida.
Non.
Je pense que beaucoup de stars, ont ce type de parcours, quoi. Il y a des enfants de stars qui arrivent et qui sont déjà dans le suivi, qui n'en souffrent pas moins d'ailleurs, parce qu'on entend souvent, je veux pas citer de nom, de jeunes comédiens ou de jeunes chanteurs qui passent par des souffrances terribles, parce que porter le nom d'un père ou d'une mère qui a atteint un certain degré de gloire, de célébrité et de talent, c'est pas évident. Mais les autres, souvent, ont à se construire comme ça. Mais même si c'est pas quelque chose de spécifique, elle porte justement en elle ce côté tragique. Moi, c'est ce qui m'a touché, enfin c'est ce qui m'a paru, c'est qu'il y a un côté comme ça tragique et qui s'exprime, qui est illustré par sa vie sentimentale finalement.
Mmh. Oui, elle a cette part sombre, cette part tragique, d'abord parce qu'elle a elle a eu une enfance difficile, hein. C'était pas facile d'être enfant d'immigrés en Égypte. Ses parents étaient arrivés donc avec leurs parents de Calabre, d'une famille pauvre. Ils habitaient, c'était une famille modeste, hein. Et du coup, je pense que elle a toujours eu envie depuis petite de, elle a eu envie de s'évader, d'être ailleurs. On sentait que cette famille ne lui suffisait pas. Et elle le dit d'ailleurs dans ses interviews, elle dit « j'étais pas heureuse, j'ai eu une enfance très malheureuse », même si, elle dit « j'étais joyeuse aussi, je chantais à l'école, je dansais », enfin ça. Mais elle n'a pas chassé cette part d'enfance malheureuse en elle, oui. Je crois, comme oui. Elle n'a pas chassé l'accent, cette part d'Égypte en elle. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça chez elle. Elle a essayé d'être fidèle à tout ce qu'elle a été
finalement.
Voilà.
Oui.
Égyptienne. Avant, elle était italienne. Elle a gardé aussi cet accent italien. Elle est française,
après.
Profondément française, attachée à se battant pour la France, même quand elle a suivi Mitterrand. Elle avait un rôle. Elle avait envie de s'engager pour une fois. Et ce que j'aime, mais en même temps, c'est ça aussi la cruauté des stars, c'est que une star, elle doit pas non plus s'engager trop. Elle doit être unique, elle doit être hors époque, hors politique, hors tout. Une star, en tout
cas, transcende les.
Voilà, elle doit transcender les genres. Oui. Elle doit être homme et femme.
Le clivage, oui, c'est
en
ça.
En tout cas, elle, si elle est aimée comme ça, et parfois elle devient une icône, hein, comme chez les homosexuels par exemple, c'est parce qu'elle n'a pas d'enfants. J'imagine mal Dalida avec des enfants, elle n'aurait pas été la même. Vous voyez, elle a un corps parfait, mais elle souffrait pour entretenir son corps, elle se faisait vomir. Vous voyez, c'était pas facile, hein. Elle savait qu'il fallait, pour être une star comme ça, parce qu'il y a d'autres stars avec des histoires de famille et tout, c'est pas. Mais pour être comme elle était, il fallait qu'elle ait quelque chose d'égyptien presque, vous voyez, antique.
Oui.
Et une Dalila, comme elle s'appelait au départ.
Voilà, oui, c'est ça. Vous expliquez bien comment elle a changé de nom finalement. Oui. Elle s'appelait. Et il y a ce côté effectivement d'enfance malheureuse qui n'a pas été digérée. Il y a le fait aussi que les amours qu'elle a connus n'ont pas toujours été réparatrices, si je puis dire.
Oui.
Soit de courte durée, soit dans le tragique, comme son premier mari qui s'est suicidé, quand il y a eu le Luigi...
Surtout Luigi Tenco.
Qui, vous pouvez peut-être en parler...
Un petit peu, simplement pour rappeler. Mais je vais raconter, mais ça fait partie de son mythe. Moi, la première fois que j'ai lu, vous savez, une biographie, quelques lignes comme ça sur la vie de Dalida, c'est terrible, quoi. On dit, quand elle avait quelques mois, elle a eu une opération des yeux, on lui a mis un bandeau, ce qui est vrai, hein.
Oui,
est terrible.
C'est incroyable.
Mais très vite après, on dit, elle a eu des maris qui se sont suicidés l'un après l'autre. Alors on se dit mais c'est affreux et tout, mais quand on regarde bien, ils n'étaient jamais vraiment encore avec elle quand ils se sont suicidés. Lucien Maurice, ils s'étaient séparés depuis très longtemps. Richard Chanfray, pareil, vivait avec une autre femme
années,
et ils sont suicidés. Mais quand on garde après, parce que un mythe, c'est comme ça, il faut utiliser des raccourcis et des choses qui choquent. Qu'on retient, que tout le monde retient. Et c'est vrai que j'étais éberluée. Je me suis dit, mais c'est horrible la vie de Dalida, c'est affreux. Mais l'histoire de Luigi Tenco, j'ai beaucoup de tendresse pour cette histoire parce qu'elle résume vraiment le tragique et la grandeur aussi du monde de la chanson populaire. C'est-à-dire que c'était un chanteur qui était un peu marginal, engagé, intellectuel, qui n'avait pas un grand public mais qui était très connu en Italie. Et elle, quand elle le rencontre, lui, il avait 28 ans, elle avait 32 ans, elle se dit, enfin, un homme que j'attendais. D'abord, c'est un Italien, il est intellectuel, elle n'était pas vraiment intellectuelle, mais elle a toujours eu envie.
Elle s'est intéressée.
Donc elle s'est dit, un poète, Il était poète, il écrivait lui-même ses chansons, de très beaux textes. Et elle le rencontre en septembre et elle aime. Elle aime, il s'aime, il voulait même avoir un enfant. Lui cherchait aussi un peu à recevoir de l'aura de Dalida pour élargir carrière, son public, oui, sa carrière, ce qui est normal aussi. Donc il décide de chanter à San Remo. Il lui apporte une belle chanson. Oui. Voilà le concours fameux de San Remo et la chanson qui est très belle, Ciao, Ciao Amor, qui est une chanson d'exil, qui n'est pas vraiment une chanson d'amour, qui raconte les paysans qui quittent leur terre pauvre pour aller à la ville. Voilà, elle lui montre la chanson et il va la chanter lui et elle la chante enfin. Ils avaient décidé en fin de soirée, elle va chanter la même chanson. Et quand il la chante, lui, il la chante pas très bien. Il place mal sa voix, il la chante, il crie, enfin c'est pas très joli. On peut voir d'ailleurs sur internet, il y a encore la trace de ce passage à San Remo. Et puis il quitte la scène, il est malheureux, il se dit oh là là, j'ai mal chanté. Il voit qu'après Dalida la chante et elle est
acclamée,
elle la chante très bien à la fin de la soirée. Lui il part, il quitte et il s'aperçoit qu'il est même pas dans la sélection. Il va dans son hôtel, il boit de la vodka, enfin plein de choses. Et elle, pendant le dîner où elle était, le dîner officiel, au milieu du dîner, elle se dit mais Luigi ne doit pas aller très bien, je vais le rejoindre. Et elle va à l'hôtel, elle ouvre la chambre et elle le trouve mort. Et ça, c'est un truc que moi qui m'a vraiment oui, non, terrible et qui est bouleversant parce qu'il est quand même mort pour une chanson. Oui, et oui. Bon, si.
Et il laisse un mot d'ailleurs, il voilà, laisse quelque il laisse chose un mot, en plus, alors, il explique. Bon,
il explique ça, que voilà, qu'ils ont choisi une autre chanson alors que lui c'est un vrai poète et qu'il est dégoûté de ce milieu, il est dégoûté du milieu de la chanson. Et elle découvre ça et elle prend conscience. D'ailleurs, elle change à partir de ce moment-là. Avant, elle était très joyeuse. C'était la Dalida de Bambino, de Come Prima, de toutes ces chansons. Et elle va chanter des chansons plus graves. Elle se transforme, elle met des robes
blanches. Oui, c'est un tournant dans sa vie, vous dites.
C'est un tournant, voilà.
C'est un vrai tournant.
Et c'est très beau parce que finalement... Oui, quand je disais la grandeur, c'est voilà, je trouve qu'il y a une grandeur de la chanson populaire et que ces deux, Luigi Tenco et elle, ont payé de leur vie quand même et montrent la grandeur aussi de la chanson populaire. Même si c'est terrible, bien sûr, certains peuvent se moquer, dire c'est idiot et tout. Mais moi, je prends ça très au sérieux et parce qu'ils l'ont pris très au sérieux.
Oui, j'entends bien, et ça nous accompagne à juste titre d'ailleurs. Oui. Et vous soulignez, alors, bon, ça, on avait parlé peut-être un petit peu de ça, de ces gestes de star et tout ça. Alors vous parlez par exemple de ses cheveux qu'elle jette, je ne peux pas le faire, vous savez, c'est
nappe. Ah si, vous pouvez. Ah si, je compte bien sur vous pour chanter après.
Mais alors vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est la force de Samson.
Voilà.
Alors, on la voit, elle est très vivante hein, dans ce livre, parce que vous avez tous les détails, les positions. Alors, les vêtements, vous parlez de ces vêtements qui sont vraiment... vous parlez de chansons qui lui vont comme des fourreaux cousus mains, ou au contraire de vêtements qui sont... Enfin, qui traduisent cette voix et c'est assez extraordinaire.
On lui a toujours apporté des chansons qui longeaient sa vie, c'est-à-dire qu'elle vivait, il y avait des histoires et tout, hop, il y avait un compositeur de chansons, un parolier qui trouvait tout de suite une chanson adaptée.
Qui lui correspondait, qui lui apportait.
Et
elle avait le courage, elle, de chanter ça.
Oui.
Et dans le fond, de se mettre aussi en cause.
De se moquer d'elle, parfois aussi.
Voilà. Elle se mettait en péril, d'une certaine manière. Et elle se mettait un peu à nu, ou alors en tout cas, on avait le sentiment.
On avait
le public avait le sentiment que c'était sa propre vie.
Mais oui,
comme si elle avait elle-même écrit ses chansons. Et peut-être que ça l'a, entre guillemets, piégée d'une certaine manière.
Moi, je crois que c'est ça. Oui, vous avez raison. Moi, je crois que c'est ça qui l'a piégée, c'est qu'elle a tellement adhéré à toutes les chansons qu'on lui a portées et qui ressemblaient un peu à sa vie.
Oui.
Mais elle en faisait encore plus.
Elle les identifie, elle les personnalisait tout d'un
coup. Et puis parfois, il y avait des chansons, vous savez, la chanson « On dit que j'aime Teilhard de Chardin
oui, »,
c'est
oui.
vrai, c'est vrai, sinon je serais pas Dalida si je n'étais pas comme ça. On dit que j'ai un caractère très colérique. Enfin, elle se moquait d'elle aussi.
Absolument, absolument.
Mais avec bonheur, quoi. Mais il fallait pas non plus croire que c'était tout elle quand elle était sur scène. Il y avait aussi cette part... Justement, où elle avait je sais pas, elle avait mis beaucoup de courage aussi pour être ça. Vous voyez, elle avait traversé des montagnes de solitude, de tristesse et tout pour arriver à faire comme si c'était simple de chanter, mais c'était pas simple. Je pense
sûrement pas. Et vous dites que justement elle existait donc dans les yeux et la vie des autres, elle a habité, dites-vous. Dans les yeux et la vie des autres, elle a habité. De tous ceux qui l'ont aimée, mais vous devriez lire plutôt parce que là j'ai pris des notes.
Je veux dire,
elle est faite de tous ces regards. Oui. Sans eux, elle n'existerait pas, peut-être pas. Et quand elle prend conscience tout d'un coup de cela, justement, alors là, elle est prête à décrocher. Et vous avez des références poétiques et littéraires, justement, dans cet ouvrage, parsemé aussi bien au départ de Victor Hugo et de références à La Fontaine. Mais là, dans ce qui concerne l'identité, justement, d'une chanteuse, d'une actrice, comme ça, qui incarne ces plusieurs jeux, vous parlez aussi de Virginia Woolf en disant, il y a cette part de non-être qui existe aussi et qui passe un petit peu comme ça dans cette vie et dans cette dont elle a peut-être pas pleinement conscience, c'est assez
vrai.
Subtil.
Oui, dans le journal de Virginia Woolf, à un moment elle dit que on se rend pas assez compte que dans la vie on a aussi des moments de non-être, c'est-à-dire tous ces moments d'absence, ces moments de silence, ces moments intimes en fait qui forment sans doute un dessin. Elle dit forme le dessin de notre vie, mais on n'a pas accès vraiment à ça. Et chez Dalida, elle avait ça, ce questionnement permanent. Par exemple, elle adorait Pirandello. Adorait Pirandello parce qu'il éclairait.
Personnage en quête d'auteur, là, ça c'était vraiment.
Elle avait plein de. Elle disait je suis un parlement. J'ai beaucoup de voix à l'intérieur de moi. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis une tribu. J'ai ma tribu. Elle était elle-même éparpillée aussi, à la fois par toutes ces paroles qu'elle incarnait, qui n'étaient pas elle, mais qu'elle devait être. Et à un moment, elle ne savait plus qui elle était vraiment. Et c'est ça, les stars.
Vous parlez des rumeurs, on disait que c'était travesti et tout ça, vous en parlez. Mais il y a eu une autre rumeur dont vous parlez pas, je sais pas, donc s'il faut que j'alimente le débat. On disait qu'elle avait fait une psychanalyse.
Ah oui.
Alors, dites qu'elle a rencontré Lacan, mais on sait pas.
On sait pas. Alors ça, j'ai jamais su si c'était vrai, mais en tout cas, je pense qu'elle est allée voir, parce qu'il y a un médecin, même, qui était à la fois ami, conseiller. Et pas vraiment psychanalyste, mais qui devait le psycho.
En tout cas, il y a une évolution psychologique en santé.
Elle avait envie de comprendre, c'est après Loujitenko en fait. Elle s'est aperçue que d'abord la mort de Loujitenko lui a rappelé aussi la mort de son père qui avait été en prison, qu'elle a aimé après qu'il soit mort, d'une certaine manière. Donc elle a compris aussi qu'il y avait cette insistance comme ça d'être qu'elle adorait et qui mourait. Et son père, elle aimait pas vraiment au début, mais elle a aimé beaucoup après. Vous voyez, donc elle s'est dit, est-ce que je vais passer ma vie à aimer les gens quand ils ont disparu? Vous voyez, elle savait pas exactement. Et sinon, les autres, pendant qu'ils étaient avec, elles aimaient pas tellement, en fait. Ou alors, ça se passait mal, il y avait des crises, ils se moquaient d'elle, c'était assez difficile, avec.
Ça devait être très dur.
Avec des gens comme Richard Chanfray, qui jouait aussi sur un peu homme, un peu femme. Qui l'humiliait en public et ça c'était elle a pas on ne sait pas ce qu'elle cherchait comme homme en fait on ne sait pas vraiment elle avait un corps aussi étrange un corps étrange
vous parlez de ce corps d'ailleurs et
travesti c'est vrai
tout à fait
qu'elle avait qu'elle le cultivait alors est-ce que c'est aussi le frère Orlando, qui a été un peu son Pygmalion, qui a voulu la fabriquer comme un travesti, c'est possible aussi. Il y a aussi ça, je pense le rôle du frère que j'insiste pas dans le livre,
mais
je pense que je pense qu'il l'aimait beaucoup, il voulait la protéger, mais parfois quand on cherche à trop protéger, on étouffe ou on.
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui. Je voudrais peut-être que le public intervienne parce qu'en fait, il y a plusieurs. Il y a tout ce qu'on vient de dire sur Dalida, tout ce que vous avez dit sur Dalida. Il y a aussi donc ce portrait de la mère en creux. Et je dirais qu'il y a aussi le portrait de la narratrice qui existe aussi. Il y a trois niveaux qui se voient comme fillette, qui grandit, qui voit ce rapport. Donc, on pourrait en parler très longtemps, mais peut-être avez-vous des questions à poser, ou peut-être peut-on vous demander de lire deux ou trois pages aussi, si vous voulez.
Oui. Ou des questions. Vous voulez une lecture?
Je sais pas. Vous voulez lire quelques quelques pages? Oui, c'est un peu le foutoir, mais.
Qu'est-ce que vous voulez?
Ce que vous voulez. Alors oui, à moi je l'ai regardé. Au niveau de la lecture, pendant qu'elle cherche une page, il y a aussi quelque chose, une petite innovation sur le plan de l'écriture, c'est-à-dire que les titres de chapitre, en fait, reprennent le début du texte du chapitre suivant. Là aussi, vous avez voulu.
Oui, là aussi, c'est comme des chansons.
Voilà, c'est comme les chansons. C'est ce que vous avez fait
avec
un petit
des
peu,
mots très
justement.
Simples.
Oui.
Est-ce que je vais lire, je sais pas. Vous voulez que je lise la fin?
Bah ça dépend si vous voulez mettre. Oui, la fin est très très bouleversante. On n'en a pas parlé en plus. C'est oui.
Je sais pas.
Oui. Allez-y. Oui.
La fin, c'est donc c'est voilà une chose encore. C'est comme une chanson. Une chose encore avant de refermer ce voyage fugitif vers Dalida, pour Dalida. Ma mère est tombée dans son appartement à Paris, un jour de septembre, et s'est cassée le col du fémur. Elle avait 80 ans, c'était 4 ans après la mort de Dalida. Je suis arrivée très tôt le matin à l'hôpital pour être près d'elle avant l'opération. J'avais apporté de l'eau de Cologne, une robe de chambre en satin vieux rose, des fleurs et un savon rond au santal. J'ai demandé à parler à un médecin. L'homme est venu dans le couloir et m'a dit, en se caressant le menton, que ce n'était pas du tout sûr qu'elle se réveillerait de son anesthésie. Vous comprenez, à cet âge-là, on ne supporte pas toujours cette opération, on ne peut jamais prévoir comment le cœur va réagir et votre mère est fragile. Vous voulez dire qu'elle peut mourir, là, ce matin ? Il n'a pas répondu et m'a regardé fixement. La porte de la chambre de ma mère était ouverte, elle était allongée sur son lit. Elle m'attendait et regardait le petit bouquet de dahlia que j'avais apporté. Il avait tant de couleurs. Dans 20 minutes, on allait l'emmener en salle d'opération et je n'allais peut-être plus la revoir. J'essayais de bien comprendre ce que m'avait brutalement dit ce médecin. J'étais perdue. Comment lui parler en sachant qu'elle allait mourir et que je ne pouvais même pas intervenir? Je me suis assise au bord de son lit et je lui ai pris les mains. Vite. Il fallait faire très vite, il fallait même être joyeuse pour lui façonner de belles dernières minutes. De la tendresse, des rires, vite, inventer quelque chose. J'ai rassemblé en tremblant les quelques forces qui me restaient et j'ai chanté très doucement pour elle. Tu te rappelles, maman, quand on chantait dans la maison? Comme au premier jour, toujours, je me souviens du temps charmant où sous le cerisier, le cœur grisé, tu m'as parlé d'amour. Chante avec moi, doucement. Tu vas voir, l'opération va bien se passer, le médecin m'a dit que ce n'était rien. Et comme prima, tu me donnes tant de joie, et mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. C'était la plus belle, celle-là, tu t'en souviens? Chante avec moi, tout va aller. C'est pas facile à lire. Attendez. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Hein. Et nous avons chanté très bas dans la chambre blanche, dos à la porte, personne ne pouvait nous entendre. Il n'y avait plus d'hôpital, plus de médecins, plus de temps, plus de peur, plus rien que nos voix qui fredonnaient Dalida. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Plus aucune ville autour de nous, ni Paris, ni Le Caire, ni Tunis, nous étions somptueusement seuls, mère et fille, en amour, pour toujours, avec Dalida entre nous pour nous aider. Elle riait en se moquant légèrement. Comme c'était beau, n'est-ce pas, toutes ces chansons? Sa voix était faible, mais si douce, si malicieuse. Elle me tapotait la main en chantant, à la fois pour battre la mesure et pour faire vivre notre autre langue silencieuse, invisible pour les autres, notre préférée, une langue de peau à peau. »